Ce temps de la résurrection nous donne aujourd'hui l'occasion de regarder, de méditer un peu, et bien sûr, sur le principe et sur la manière dont l'Église primitive s'est organisée. C'était la première lecture, mais c'est aussi la seconde avec l'Apocalypse qui nous montre la Jérusalem céleste qui vient, qui est donnée, offerte aux hommes. Et réellement, c'est par définition quelque chose qui doit nous préoccuper et qui nous préoccupe régulièrement. Là, on voit comment l'Église primitive, comment les apôtres et tous leurs collaborateurs essayaient de s'y retrouver au commencement de l'Église. Ils avaient du mal parce que même Pierre lui-même avait du mal à se séparer de la circoncision tout au début, puis il y est parvenu avec le coup de pouce de l'Esprit-Saint. Qui lui a fait la grande vision du filet avec les animaux prétendument impurs à l'intérieur. Et, or, ce filet-là, c'est le filet du pécheur, de celui qui prend les âmes dans la mer de ce monde. Et donc, il ne fallait pas déclarer impur ce que Dieu, par définition, déclarait pur. C'est, là encore, Dieu rappelait dès le commencement que c'est lui qui amène les âmes à l'Église, que ce n'est pas une œuvre de l'Église que de convertir les gens. Non, c'est de les former, de les faire croître, de les garder. Mais le démarrage, c'est comme le don de la vie, c'est réservé à Dieu seul. Le don de la foi, de la conversion, c'est ineffable. Et ça, l'Église ne peut pas s'en mêler de cela. Quand elle a le malheur de vouloir s'en mêler, c'est toujours des catastrophes. La discussion, donc, on voit, est parfois âpre pour savoir qu'imposer aux païens. Parce que les premiers croyants étaient juifs, donc ils pensaient un peu trop vite qu'il fallait la loi de Moïse, c'est ce que le texte rappelle. Certains d'entre vous disent qu'il faut... il faut faire circoncire les gens, il faut qu'ils se respectent les commandements de Moïse. Et finalement, Pierre et les apôtres disent l'Esprit-Saint nous a appris à simplifier les choses et à nous détacher même de cette première alliance et de ces commandements, hormis l'essentiel, bien sûr. Et il résume l'essentiel avec les idiolotites, c'est-à-dire les viandes immolées aux idoles. Idiolotite, c'est juste la transcription, c'est en grec, ça se dit comme ça. Et le sang, là c'est encore un commandement qui sera abandonné finalement après. Hein, la viande cachère, nous on ne mange pas cachère spécialement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis les unions illégitimes. Donc voilà ce qu'ils avaient imposé aux croyants. Alors, aux païens qui croyaient, qui accédaient à la foi, parce que les viandes immolées aux idoles, il faut se remettre dans le contexte du premier siècle de notre ère. Il y avait les temples, c'était des boucheries, au sens où on immolait des animaux. Et alors les gens offraient ces animaux, par définition. Ils achetaient les animaux en question, et puis ils les faisaient immoler dans un temple, je ne sais pas qui, à Jupiter ou à autre chose. Et là, les prêtres, dépeçaient les animaux, et les recevaient gratuitement, mais ils en avaient beaucoup trop pour leur propre consommation, c'est sûr. Et donc ils les revendaient au marché, avec un prix beaucoup plus bas que le prix de la boucherie. Donc c'était ça, les viandes immolées aux idoles. Et évidemment, c'était très intéressant pour les gens de les acquérir. Donc on mangeait de la viande à bon marché. Mais certains convertis, étaient scandalisés de cela. Vous savez, c'est toute la polémique qu'il y a derrière. Donc finalement, on avait demandé aux gens, saint Paul demande à ceux qui sont des forts, de s'abstenir au nom des faibles de ces viandes-là, même si ça ne conduit pas à la perdition de les manger. Ce qui compte, c'était de communier aux idoles elles-mêmes. C'était ça qui était interdit et qui est source d'un grand danger pour nous. Aujourd'hui, donc vous voyez, ça introduisait la gestion de l'Église et des commandements, la mise en place des commandements et donc de la morale chrétienne dont nous avons hérité. Elle est fondée sur la parole de Dieu, mais il y a ce discernement qui passe par l'Église. Un discernement, heureusement, tempéré, arbitré par l'Esprit-Saint. Aujourd'hui, donc c'est des polémiques. Il y a eu pas mal de polémiques tout au long de l'Église. On se souvient que dans toute l'Antiquité, c'est une période très polémique de mise en place du dogme. Il y avait des réunions qui étaient... des consignes, voilà, des consignes qui étaient réunies régulièrement pour statuer sur les questions qui provoquaient des litiges et des polémiques dans l'Église. Et vraiment, toute l'Antiquité est rythmée par ces décisions, par ces interrogations, ces discussions, parfois très âpres, entre chrétiens. Aujourd'hui, nous avons ces années du synode, et donc la question de l'organisation de l'Église, elle se pose encore. Toujours elle se pose, notamment pour nous qui voyons de grosses structures avec de moins en moins d'ouvriers pour les animer. Donc il faut réussir peut-être, par exemple, à simplifier toutes ces structures. Mais ça, l'Église a beaucoup de mal. Mais pour y parvenir, voyez-vous, il ne suffit pas de discuter entre nous. Il faut l'assistance de l'Esprit-Saint, exactement ce que le texte des Actes des Apôtres nous montre. Or, nous savons bien que pour les questions importantes, l'Esprit-Saint est toujours là, il réussit à s'imposer quand même, mais pour les questions un peu secondaires, si on ne le fait pas venir par la prière, il ne vient pas. Il y a beaucoup de réunions où on invoque l'Esprit-Saint, mais l'Esprit-Saint, il n'est pas tellement là, finalement. Moi, je vois pour ma propre congrégation, et donc ça ne fait mal à personne, à chaque fois qu'on a un chapitre, vous voyez, une de ces grandes réunions solennelles, il y en a toujours un pour dire « Ah, on a réussi à prendre des décisions ensemble, c'est beau, l'Esprit-Saint était avec nous. » Et moi, j'avoue que pendant que soit j'y étais présent, soit j'en entendais parler, je trouvais au fil des jours que l'Esprit-Saint, il n'était pas beaucoup présent. Je ne suis pas tellement d'accord avec cet optimisme-là. Il faut vraiment le faire venir, l'Esprit-Saint. Et on le fait venir, mais parce qu'on garde la parole de Jésus. Et si on ne garde pas la parole de Jésus, je veux dire, si on discute humainement de gestion matérielle, donc je reste au niveau de ma congrégation, la gestion des maisons qui se vident, des maisons énormes, des couvents qui autrefois étaient remplis mais qui maintenant sont vides. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les vendre? Est-ce qu'il faut les louer? Est-ce qu'il faut ceci et cela? Est-ce qu'il faut les mettre pour l'accueil? Mais en fait, on gère des bâtiments, vous voyez, on ne fait pas de l'apostolat, on ne prévoit pas de remettre en cause les valeurs sur lesquelles on fonde, par exemple, notre vie religieuse et notre apostolat religieux. On va penser à l'argent, ça on va y penser beaucoup, on va penser aussi à la manière de se réunir, le rythme des réunions, à ça on y pense, mais c'est toujours pour résoudre des problèmes matériels ou humains, c'est toujours horizontal. Et j'ai peur que ce soit un travers de l'Église en général, ça. En général, l'Église, elle penche, sauf lorsqu'on s'interroge sur un dogme, une vérité de foi. Mais en dehors de ça, on ne met pas beaucoup la parole de Dieu au centre de ces réunions. Qu'est-ce que veut Dieu véritablement ? C'est ça qu'on devrait se demander, surtout quand on est consacré, quand on est prêtre. Qu'est-ce que veut Dieu pour l'Église aujourd'hui? Et notamment, même pour les questions d'organisation, pour les questions de gestion, d'animation, qu'est-ce que veut Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'il veut qu'on s'épuise? Mais pourquoi s'épuiser? Pourquoi être si attaché à la représentation sociale à travers, les enterrements, vous savez, l'Église enterre tout le monde encore aujourd'hui, et même des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans l'Église, dont on ne sait pas vraiment quelle était leur relation à Dieu, il n'y a pas beaucoup de vérifications, et c'est un peu pareil pour les mariages, alors est-ce qu'on ne pourrait pas alléger de ce côté-là, etc. C'est des questions, mais au moins se les poser. L'Apocalypse nous montre la Jérusalem céleste qui vient d'en haut. Ça veut dire que l'Église en tant qu'institution, dans son Église, elle est vraiment pure. Et elle ne peut pas mourir parce qu'elle repose vraiment sur Dieu. Mais ça dépend, elle peut se maintenir ici et disparaître là, hein, faut faire attention à ça. Et donc, elle est édifiée sur le témoignage des apôtres. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette dimension céleste de l'Église qu'il faut avoir toujours sous les yeux. C'est ça le temps de la résurrection. C'est... Qu'est-ce que l'Église, finalement, ses structures ? C'est bien, mais ce n'est pas une finalité en soi. Quelle est la mission de l'Église ? La mission de l'Église, c'est d'avoir une analyse critique des valeurs du monde. La mission de l'Église, c'est de regrouper les brebis du Christ, de les faire croître, de les défendre, mais par rapport à la foi. C'est ça, l'abus de l'Église. C'est pas, je sais pas, d'organiser des réunions, des concerts, de l'art sacré, que sais-je, moi. C'est pas le but de l'Église. Le but de l'Église, c'est vraiment un but qui est totalement transcendant. C'est porter ces âmes que le Christ nous envoie et les faire grandir dans la foi jusqu'à la vie éternelle. Et les idiolotites, ces viandes immolées aux idoles, c'est pas matériellement que ça compte. Ça représente les valeurs du monde, ces idiolotites. Et c'est de cela dont il faut s'abstenir absolument, encore de nos jours. Il ne faut pas communier, manger, ça veut dire communier aux valeurs du monde. On ne peut pas être un païen pendant la semaine et un chrétien pendant le week-end. C'est impossible. Il faut une logique. Des compromis sont possibles, mais jusqu'à un certain point seulement, il faut voir le moment où le compromis commence à nous faire mourir au niveau de la foi. La parole de Dieu, c'est vraiment le fondement de cette foi. Jésus va jusqu'à dire « Ceux qui gardent ma parole, ce sont ceux qui m'aiment. » Et ceux qui gardent ma parole, eh bien, je leur envoie l'Esprit Saint. Donc, ceux qui gardent la parole de Dieu savent toujours ce que veut Jésus, ce que veut le Père et ce que veut l'Esprit Saint qui nous le rapporte, qui nous fait nous souvenir de ce que Jésus nous a dit. Et nous souvenir, ça veut dire avoir la connaissance de la volonté de Dieu. Et il nous donne un autre fruit merveilleux, c'est la paix. Une paix qui n'est pas de ce monde. Une paix qui nous habite même au milieu des tensions, bien de la vie terrestre et de la gestion matérielle des choses ou des personnes. C'est ça être ressuscité, c'est pas être dans le paradis avant l'heure. C'est être dans cette paix et dans la connaissance de la volonté de Dieu. Cette connaissance engendre en nous la paix véritable. Alors vivons de la vie même de Dieu et elle repose sur la réception de la parole. L'Église primitive nous a montré que recevoir la parole, eh bien, ça implique un discernement de notre part, de nous interroger, de discuter, d'errer un peu aussi parfois, mais au bout du compte, on finit par entendre la voix de l'Esprit Saint et donc par trouver cette paix.